Chapitre second. 69. La science peut être envisagée de trois manières. Petit 1, il y a la science des choses. Petit 2, il y a la science des faits ou l'histoire. Petit 3, la science des mots ou les langues. La science des choses comprend l'histoire naturelle, la physique, etc. 70. Ici, il faut se souvenir de ce que disait Solon, donnant ses lois aux Athéniens. Ce ne sont pas les meilleurs en elles-mêmes, disait-il, mais les meilleurs que ce peuple puisse comporter. Il en est de même d'un plan d'enseignement. Pour être bon, il faut qu'il soit comme calqué sur les dispositions du disciple, combiné avec les facultés des parents et avec leur vue. En un mot, il faut un plan adapté et au temps et au lieu. 71. Or, un tel plan est bien différent de celui qu'exigerait l'ordre essentiel des choses. 72. Tout le monde convient que les choses doivent passer avant les mots. Évitez, dit-on tous les jours, de payer de mots. Apprenez d'abord des choses, et que les mots ne viennent qu'après. Cependant, c'est tout le contraire que ce qui s'observe d'ordinaire. Partout, la lecture a le pas avant toute chose. Rien de si difficile pour les enfants que d'apprendre à lire, de la manière surtout dont on les enseigne. Et la difficulté est double lorsqu'on leur fait lire des choses inintelligibles pour eux. Néanmoins, l'usage prévaut, et tout ce que les sages ont pu alléguer contre n'a été que comme des faibles digues bientôt emportées par le torrent. 73. Chaque connaissance est assise sur une base. Cette base, ce sont les principes. Et ce que l'on sait par principe, comme on dit, on le sait mieux, on le retient mieux. L'étude des principes, dans quelque science que ce soit, tourne toujours au profit du jugement. C'est pourquoi, en tout, on s'attachera aux principes. 74. L'enfant apprendra donc à lire suivant les principes de la lecture. Ce qu'il ne faut pas prendre dans le sens le plus étendu, lire avec art, étant une chose trop au-dessus de l'esprit borné d'un enfant. La seule chose donc qu'il faille entendre ici est que l'enfant articule distinctement, donne au son le degré de force qui leur convient, observe les longues, les brèves, ne contracte aucun mauvais accent, et s'arrête là où il y a quelques pauses, plus en certains endroits et moins dans d'autres. 75. À la lecture succède l'écriture, qui doit s'apprendre de même, c'est-à-dire conformément aux bons principes. 76. Colbert, le grand Colbert, faisait un cas tout particulier d'une belle pièce d'écriture. En effet, rien de plus séduisant qu'une belle pensée où brille le coloris de l'expression et la beauté du caractère. 77. Viennent les langues. L'usage règne encore ici avec la même tyrannie, et la préférence est accordée aux langues dont on prévoit avoir un besoin, ou plus grand ou plus prompt. En ceci, comme en beaucoup d'autres choses, c'est le besoin qui commande. 78. Les langues, russes, allemandes et françaises, sont les langues dominantes, et on les enseignera conformément au cours de langue française, lequel se trouve à la fin de ce plan. 79. Les langues sont suivies de la géographie, et la connaissance de son propre pays est celle qu'acquérera l'enfant avant tout. On lui fera connaître ensuite les pays voisins, puis les pays plus éloignés. 80. La géographie est aussi attrayante par elle-même que la manière ordinaire de l'enseigner est dégoûtante. Aussi l'oublie-t-on d'autant plus vite que l'on a mis plus de temps à l'apprendre. 81. Il en est des choses abstraites comme des choses physiques à certains égards, et pour qu'elles aient plus de prise, il faut leur prêter comme une sorte de mordant. Un phénomène qui aura brillé quelque part, un événement remarquable, une plante, un animal, quelques procédés curieux, en fait d'art, etc., sont ce qu'il y a de plus propre à fixer dans la mémoire la position d'un lieu, et rien n'empêche d'y avoir recours. 82. L'histoire qui vient après se divise en histoire sacrée et en histoire profane, en histoire ancienne et en histoire moderne, en histoire générale et en histoire particulière. 83. Ici, l'on se conformera encore à l'usage, et l'histoire moderne sera celle par où l'on commencera. On étudiera d'abord l'histoire de son pays, puis celle des pays voisins, et enfin l'histoire des pays plus éloignés. 84. La mythologie est fille de l'histoire et ne doit point en être séparée. Elle ne doit pas non plus aller sans la géographie, ni même sans la chronologie, jusqu'à certains points. Dans la mythologie, il faut détacher ce qu'il y a de vrai, mettant à part les mensonges des poètes, à part les allégories bâties sur ces mensonges, et tirant un voile discret sur les obscénités autant qu'il se pourra. Un autre point de vue est de rapprocher à propos ce système de religion des Grecs et des Romains, du système de religion que suit l'élève. 85. La musique et la danse font aussi partie de l'éducation. Plusieurs personnes y joignent la déclamation, un peu de ce que l'on nomme style épistolaire, quelquefois le dessin, les armes plus rarement, et le manège plus rarement encore. 86. De tous les instruments, le plus beau, le plus varié, le plus facile et le plus portatif est la voix. La musique vocale, supérieure à beaucoup d'égards à la musique instrumentale, a de plus l'avantage d'embellir la déclamation et de prêter de la grâce à la prononciation. Mais la musique instrumentale fatigue moins, et d'ailleurs, c'est celle que l'on préfère communément. 87. Les principes de la musique sont inséparables de la géométrie, et la géométrie est inséparable de toute bonne éducation. Elle en est comme le point central. La morale même n'est que la géométrie appliquée d'une certaine façon. 88. La géométrie, comme toutes les autres sciences, exige beaucoup de méthodes, et enseignée par un habile maître, elle devient extrêmement aisée. Il s'agit seulement de ne rien supprimer d'intermédiaire, de ne jamais enfreindre l'ordre d'antériorité, cet ordre qui fait que telle chose est montrée avant telle autre, et de ne point supposer à l'élève des notions qu'il n'a pas encore acquises. 89. La géométrie sera donc enseignée parce qu'elle est nécessaire et que l'usage le permet. 90. La déclamation tient à l'histoire et à la géographie, à la morale, à la logique et à la rhétorique, à la grammaire, à la danse et à la musique. 91. C'est Auguste pardonnant à Cinna dans Corneille. On fait d'Auguste un portrait composé des principaux traits de sa vie. Sur une table chronologique, on montre la place qui y occupe ce prince, et sur la carte, la ville qu'il habitait. Suivent les remarques sur les pensées, sur le style, sur les gestes et sur la prononciation. Cet exercice ainsi pratiqué peut servir beaucoup. 92. La déclamation est une école de vice ou de vertu. Accompagnée des précautions convenables, elle nourrit le cœur et l'esprit, que sans ces mêmes précautions, elles corrompt l'un et l'autre. 93. Anciennement, dit-on, l'harmonie des vers était consacrée à l'harmonie des actions, et la vertu seule était chantée par la poésie. Depuis, on a prostitué celle-ci en lui proposant le vice pour objet de ses chants. 94. La poésie sera ramenée à sa destination primitive, et parmi les plus beaux morceaux, on fera un choix de ceux qui, ornant la mémoire, peuvent éclairer l'esprit, corriger de mauvais penchants ou fortifier de bonnes inclinations. 95. Écrire une lettre n'est autre chose que de converser par écrit, et pour y réussir, il faut de la pratique et du jugement. 96. On écrit à un supérieur ou à un égal, etc., sur des matières graves ou légères, etc., autant de styles différents. 97. L'usage du monde fait beaucoup en ceci. 98. Une lettre bien écrite a souvent fait la fortune à son auteur, et c'est toujours une pierre de touche pour juger de celui de qui elle part. 99. On cultivera le style épistolaire, et pour plus de progrès, on peut établir quelques correspondances entre l'élève et quelque autre personne réelle ou supposée. 100. Narrer par écrit et narrer de vive voix sont à quoi se réduit de nos jours, en plus grande partie, l'art des rhéteurs dans la plupart des gouvernements. 101. Rien ne flatte tant que d'entendre quelqu'un narrer avec grâce. Un homme qui sait narrer donne du prix aux moindres choses, et de sa bouche, il sort comme des chaînes d'or qui captivent tout ce qui l'entoure. 102. L'art de narrer est un assemblage de plusieurs qualités, une imagination fleurie, un esprit orné, une judiciaire nette, une connaissance fine de toutes les bienséances, une voix douce et un maintien noble et simple, sont les plus nécessaires. L'habitude y contribue beaucoup, et l'élève la contractera, si, le faisant lire souvent, après chaque lecture, et le livre fermé, on l'oblige à en rendre compte de vive voix, en lui faisant remarquer ce qu'il aura ou omis ou déplacé mal à propos.